Donc voilà, juste pour dire qu'on a cette capacité, on a naturellement cette intuition, cette réponse intuitive à tout ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est vrai dans notre monde, dans notre expérience. Et une partie de la vie spirituelle, clairement pour moi, ça consiste à développer cette capacité, à vraiment la renforcer. Parfois, comme j'ai dit, elle est un peu... c'est quoi le mot opposé à aiguisé? Blunted. C'est
atténué.
Atténué, oui. Oui. Émoussé, voilà, c'est ça que j'ai cherché. Oui, par la souffrance, par les difficultés de tous les jours, par les distractions, par la façon dont nous vivons, passant d'une chose à l'autre. On n'est pas toujours en contact avec cette capacité, avec cette capacité à répondre à ce qui est beau. Parfois, on ne voit même pas la beauté autour de nous. On est tellement dans notre réactivité, nos habitudes, notre désir d'aller là où on veut aller, notre frustration avec ce qui nous empêche d'y arriver. Mais donc il faut, pour nous, surtout dans le monde dont nous vivons, où ces qualités sont de moins en moins mises en valeur, je crois qu'il faut vraiment développer notre capacité de l'imagination qui peut répondre à ces choses-là. Parce qu'on en a besoin pour notre vie spirituelle. Sans cela, notre vie spirituelle devient mécanique et en fait, ça reste à l'ordre du karma niyama. On ne va jamais être susceptible à l'au-delà si on ne développe pas cette capacité-là. Parfois, c'est même très enfoui. Il faut parfois le retrouver, cette capacité. Stimuler. Et puis, petit à petit, la développer. Et comment on peut faire ça? Voilà, venons à la pratique. Soyons terre à terre. Pour la beauté, pour commencer. On peut passer le temps là, dans la nature. Moi, je trouve que ça marche à presque à chaque fois. Juste trouver un arbre, on n'a même pas besoin d'aller au fin fond des montagnes. Juste trouver un arbre, et surtout au printemps où tout est en floraison et dans la verdure des nouvelles feuilles. Passer du temps dans la nature. Développer notre appréciation des arts, aller voir des peintures, des expositions, écouter la musique, découvrir la poésie, les pièces de théâtre, tout ce qui est de l'ordre de créatif, de l'artistique. Parce que ces choses-là, normalement, elles sont créées à partir d'un état d'esprit plus élevé, un état d'esprit créatif, qui souvent est en contact avec quelque chose d'au-delà, et surtout au-delà de l'esprit de tous les jours, des mots, des idées, des concepts, des planifications et tout ça, quelque chose. Les arts, ça n'a pas vraiment d'utilité, à part sa beauté, à part oui, parfois il y a un message assez profond aussi, mais ça n'a pas d'utilité dans le sens ordinaire du terme. Donc ça nous mène déjà vers un monde plus imaginé, plus raffiné, au-delà de notre expérience de tous les jours. Et personnellement, je trouve que oui. Comme la nature, ça a un accès assez facile. Dès que je me mets devant une belle peinture ou je prends le temps d'écouter un beau morceau de musique, mon état d'esprit est parfois transformé immédiatement. Donc voilà, il ne faut pas grand-chose. Et ça a un effet. Pratiquer nous-mêmes des activités créatrices. Voilà, il y a une occasion dimanche prochain à faire l'écriture avec Nina. Pas besoin d'être déjà poète expérimenté ou quoi que ce soit, juste besoin de mettre un crayon sur un papier et former des mots. Donc vous êtes tous invités à faire ça avec Nina. Et c'est quelque chose que j'aimerais développer plus en fait au centre. J'espère qu'on aurait plus de temps à expérimenter, pratiquer ensemble ou aller visiter ensemble des choses liées aux arts. Et puis, Tout simplement prendre soin de notre environnement. Ça fait toute la différence. Moi, je sais que quand j'entre dans, par exemple, dans la salle de méditation et quelqu'un a mis un joli bouquet de fleurs, ou Marielle, ou quelqu'un d'autre a changé l'hôtel, ou Arrigo, ou quelqu'un des autres qui nettoie, en nettoyé, je vois la différence, je sens la différence, je sens le soin et la pratique de l'esthétique. Donc voilà, dans la vie quotidienne, comment faire ça? Encore, on va être très terre à terre. Bah, passez du temps à ne rien faire. Regardez vraiment vos vies. Combien de temps par jour est-ce que vous passez vraiment à rien faire? Et je ne compte pas le temps endormi. Juste vous asseoir ou vous rester debout ou vous allonger, mais ne rien faire. Est-ce que vous osez faire ça? Et pour pouvoir faire cela, je crois qu'il faut travailler à abandonner l'idée de l'utilité, de justifier notre existence. On a tellement, je crois que c'est là dans notre société, c'est là autour de nous, cette idée de pas d'utilité, qu'il faut être utile, il faut que des choses servent à quelque chose, que nos activités servent à quelque chose, qu'on est en train de créer, de faire, réaliser quelque chose. Et sans cela, on se sent... en fait, Ratnaguna, le même atelier, ça tombait vraiment bien qu'il fasse cet atelier juste avant de faire cette conférence. Il a dit qu'il croit qu'il y a trois choses en général qui nous empêchent de ne rien faire. C'est la culpabilité. Surtout en Angleterre, on a ce qu'on appelle « the Protestant work ethic ». C'est l'idée protestante qu'il faut travailler, quoi. Il faut toujours travailler pour être utile. Mais je crois que ce n'est pas uniquement protestant. Je crois que ça se répond partout. Donc il y a la culpabilité. Je crois qu'on se sent souvent assez facilement coupable quand on est en train de rien faire, quand on n'est pas en train d'être utile, faire quelque chose qui justifie notre existence. Sinon, c'est l'ennui. Moi, je vois que j'arrive même pas à m'ennuyer parce que j'ai tellement peur de l'ennui que je me laisse pas le temps de m'ennuyer, en fait. C'est ça qui me pousse toujours à faire des choses, que ce soit lire, que ce soit écouter la musique, que ce, toujours en train de remplir le temps que j'ai pour. Je crois que c'est une peur d'ennui et je me laisse même pas arriver à l'ennui. Donc voilà, c'est la prochaine étape, serait de m'ennuyer. Et le troisième, c'est le sommeil. Parce qu'en fait, ouais, c'est le sommeil, c'est, d'une certaine manière, c'est aussi une façon d'éviter d'être juste présent et là. Donc souvent, peut-être il y avait certains d'entre vous qui dans la méditation tout à l'heure où il n'y avait rien en particulier à faire, vous étiez juste là présent avec ce qui était. Peut-être vous somnolez. Je vous demande pas de, mais peut-être par moment vous somnolez. Donc voilà, l'ennui, la culpabilité et l'ennui. Donc il faut vivre ces trois choses-là, il faut les dépasser en fait. Il faut pas, il faut pas les laisser nous manipuler pour nous pousser vers l'activité. Donc aussi, voilà, pour retourner à ma liste de choses pratiques à faire, donc passer du temps à ne rien faire, abandonner l'idée de l'utilité, profiter des moments d'inactivité en forcé, tels les voyages, les attentes pour le bus, pour le médecin, pour le train, pour le quoi que ce soit. Profiter pour juste être là, encore ne rien faire, juste attendre. Comment est-ce qu'on se sent juste attendre quelque chose, vivre l'impatience, l'ennui, la frustration, quoi que ce soit, et puis regarder autour de nous, profiter pour voir d'autres choses. Et puis plus généralement, vivre à un rythme plus lent. Essayer de ralentir le rythme de notre vie pour créer des espaces, pour laisser des moments non planifiés. Laisser des moments... voilà, encore Ratnaguna. Il évoquait des pays un peu comme dans certains des villages. C'est là où j'ai vu, donc j'évoque l'Inde, dans certains villages de l'Inde où s'il n'y a pas de boulot à faire, si la cuisine a fait, les enfants sont couchés ou sont à l'école ou je sais pas, il n'y a rien à faire, donc les gens s'assoient, ils sont juste là, dans la rue, devant la maison, juste comme ça, à ne rien faire. Parce qu'il n'y a rien à faire. Mais nous, nous sortons notre téléphone portable, notre petit ordinateur, notre livre, le journal, nous lisons les publicités autour. toujours quelque chose à faire. Essayer de vivre à un rythme plus lent. Et parfois, ça veut dire ignorer la liste de choses à faire. Moi, je vis avec une liste de... La liste de Damoclès, c'est comme ça qu'on a dit son nom, Damoclès. L'épée de Damoclès. Damoclès. Voilà. Il y a une amie de moi qui me parlait de ma liste de Damoclès. Parce que c'est comme si je vis avec une liste par-dessus ma tête qui va me tomber dessus à n'importe quel moment. Ben voilà, il faut... apprendre à l'ignorer et quand même faire rien. Et laisse-la tomber sur la tête si ça arrive, mais voilà. Vraiment, ça veut dire, je crois vraiment, ça nous demande de changer un petit peu notre façon de vivre. Vraiment, franchement.